est midi sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne et aujourd'hui, nous allons parler sport. Et oui, ne faites pas cette tête. Je sais que vous avez bien conscience que le sport est nécessaire à votre véhicule terrestre pour maintenir, son énergie et toutes ses fonctions vitales. Et j'arrête de dire des bêtises, je cède de ce pas la parole à mes invités. Il y en a aujourd'hui 5 dans le studio. Et je crois, mesdames, messieurs, qu'on va commencer par rappeler ce qu'est le SSU, le service de santé universitaire.
Bah du coup je vais commencer, bonjour, je m'appelle Tony Gendron, je suis le coordinateur des étudiants relais santé de l'université de Tours. Je vais laisser ma collègue se présenter puis je ferai un point.
Bonjour, alors moi je suis Maëlle et je suis étudiante relais santé au service de santé universitaire. Et donc en fait notre rôle c'est par équipe de traiter des sujets du bien-être, de la vie sexuelle et affective et des risques et addictions lors de soirées festives. Donc on fait plusieurs actions tout au long de l'année et on fait aussi donc ces interventions radio sur plusieurs thématiques.
Alors au niveau du SSU, les ERS sont déjà venus plusieurs fois, donc j'ai l'impression que c'est un peu du réchauffé, mais je vais quand même le répéter. Donc le service de santé universitaire, c'est un lieu où les étudiants peuvent rencontrer des professionnels de santé divers et variés, donc médecins, psychologues, infirmiers, assistantes sociales également, gynécologues. Tout cela, c'est sans avance de frais pour les étudiants qui ont une mutuelle, il faut juste présenter carte vitale et mutuelle. Et voilà. Donc c'est une offre de santé qui est plutôt intéressante, notamment pour les étudiants qui ne sont pas dans leur ville natale, en fait, qui viennent faire leurs études à Tours. Ça leur permet d'avoir un suivi de santé, quelque chose que les étudiants, en général, population qui est plutôt à risque, quelque chose qui est vraiment utile pour eux. Donc on les invite à venir nous voir quand ils ont des problèmes d'une diverse nature.
Et alors, pédagogie de la répétition, les étudiants étrangers, les étudiants d'échange, est-ce qu'ils peuvent aussi venir au SSU ?
Alors oui, et cette population-là, c'est une des populations qu'on suit le plus parce que c'est techniquement la plus vulnérable sur le problème d'absence de suivi médical, puisque ces gens-là souvent ne viennent pas avec leur médecin naturellement, et parfois ils ne viennent pas aussi avec leur dossier médical, et du coup c'est important de leur rappeler que le SSU est un lieu qui leur permet de faire un suivi médical global tout au long de leurs études, de leur échange, de leur présence sur le territoire français pour éviter qu'ils se retrouvent en grande difficulté, difficulté majorée justement par le fait que c'est un milieu qui leur est souvent au mieux peu connu et sinon inconnu.
Alors nos nombreux auditeurs ne manquent pas évidemment de mettre des questions sur les réseaux sociaux et j'en vois une justement, au secours, je n'ai pas de carte vitale. Alors est-ce qu'on peut quand même venir au SSU ?
Alors oui, on peut quand même venir au SSU. Dans ce cas-là, il y aura un rendez-vous qui sera aussi vu avec l'assistante sociale pour faire le point justement sur l'absence de carte vitale, quelle est la procédure, les démarches administratives et tout. Et dans ce cas-là, alors c'est un cas un peu particulier, mais dans ce cas-là, il est envisagé que si c'est un problème de santé, ce problème de santé-là passera dans une... comment je pourrais dire ça ? Sera vu de façon particulière et il n'y aura pas d'avance de frais dans ce cas-là. Mais par contre, il y a un rendez-vous obligatoire avec l'assistante sociale, justement pour régler le problème d'absence de carte vitale.
Alors je me tourne vers Maëlle. Donc Maëlle, vous nous expliquiez qu'il y a différentes missions pour ces étudiants relais santé. Donc en effet, vos collègues ont déjà pu le dire à notre antenne, mais est-ce que vous voulez rappeler comment on devient étudiant relais santé et en fait, quelle place ça occupe dans votre parcours étudiant ?
Alors pour devenir étudiant relais santé, en fait, on a reçu une offre d'emploi par mail et donc fallait faire comme pour tous les travails, donc envoyer un CV, une lettre de motivation. Et après, on était reçu en entretien collectif pour voir un peu comment on évoluait dans un groupe, parce que c'est vrai que c'est un travail d'équipe avant tout. Et pour ma part, je suis étudiante en musicologie, donc c'est sûr que ça n'a pas forcément de lien direct avec mes études, mais le fait de travailler en équipe et de monter des projets, ça peut toujours servir, peu importe les études. Voilà.
Ah, et on rappelle aussi que quand on veut faire une soirée étudiante et festive, évidemment, on passe aussi par les étudiants relais santé, ce me semble.
Oui, c'est ça. En fait, on reçoit toutes les associations qui organisent des événements pour faire un point sur la sécurité, comment est-ce qu'ils envisagent la vente d'alcool, etc., les lieux, s'ils ont prévu un poste de secours, par exemple. Enfin, on fait le point avec eux pour être sûr que la soirée se passe au mieux.
Et comment on procède alors, si on veut faire une super soirée étudiante, comment on fait pour vous contacter? Je suppose que l'une des questions phares, c'est mais peut-on vendre de l'alcool? Et donc, comment on fait pour vous contacter et pour vous poser toutes ces questions?
Alors en fait, il suffit d'envoyer un mail depuis l'ENT, donc soit directement à Tony Gendron, soit sur l'adresse étudiants relais santé Tours. Après, on convient d'un rendez-vous et lors de l'entretien, justement, on pose ces questions relatives à l'alcool et évidemment qu'on sait très bien que lors de soirées festives, il y a de l'alcool. Mais justement, on propose des systèmes pour permettre de contenir la consommation. Donc, par exemple, un système par ticket, etc. Et après, les normes, c'est pas nous qui les fixons, elles sont fixées par le service de santé étudiante et l'OMS.
Alors, par exemple, sur la question du nombre de consommations d'alcool par étudiant, effectivement, nous, on se base sur les chiffres de l'OMS qui sont de 4 consommations par étudiant par soirée. Ça, c'est les chiffres internationaux, donc c'est ceux sur lesquels on se base. Et le reste de l'entretien aborde également les questions d'ordre légal. Hein. C'est-à-dire comment les étudiants, comment l'association va préparer sa soirée, notamment sur la gestion de l'alcool. Et c'est là, plus souvent, où il y a des petits soucis. Et c'est pour ça que, dans l'idéal, on demande aux assos de nous contacter un mois à l'avance. Parce que quand il y a des problèmes d'ordre administratif, l'administration française, je vous invente rien, c'est parfois un peu lent. Du coup, c'est bien qu'ils nous préviennent au mieux un mois, au pire du pire, 2 semaines. Parce que 2 semaines, c'est le délai légal majoritairement des mairies pour obtenir une licence 3 qui autorise la vente d'alcool. Cette licence 3 est obligatoire dans tous les cas lorsque les étudiants font une soirée festive. Du coup, quand les assos passent et qu'elles nous disent que elles n'ont pas la licence 3, le fameux sésame, et qu'il reste 4 jours avant la soirée, eh ben, c'est un peu compliqué.
Alors qu'on s'entende bien, parce que 4 verres d'alcool, attention, j'imagine qu'un verre d'alcool fort, ça n'a rien à voir avec une pinte de bière. Et peut-être que ça, c'est des choses que vous êtes amené aussi à rappeler aux étudiants.
Alors oui, on leur parle d'un principe un peu barbare, parfois pour eux, qui s'appelle la dose barre. Et qui est en fait n'importe quelle consommation en fait que l'association prépare. En fait, elle est toujours basée sur une dose barre, c'est-à-dire chaque verre d'alcool contient la même quantité d'alcool pur. Donc ça veut dire que en gros, pour quelqu'un qui prend, on va dire, une dose barre de bière, c'est 25 centilitres, une dose barre de whisky, c'est 3 à 4 centilitres. Voilà. Il y a la même dose d'alcool, mais il n'y a pas du tout la même quantité dans le verre. Et donc le but, c'est de respecter ça, sachant que 4 centilitres de whisky, c'est l'équivalent de 25 centilitres de bière. Donc en gros, sur une soirée, ils ont le droit à 4 fois 4 centilitres de whisky, par exemple.
Voilà, à consommer, mais avec modération. Et on rappelle également que les étudiants relais santé, vous n'êtes pas une police quelconque. Hein. L'idée, c'est pas de faire de la délation ou d'être dans un comportement punitif.
Alors, très franchement, je crois que ça a dû arriver peut-être une fois, et c'est vraiment parce qu'il y a eu de très très gros problèmes. Mais sinon, on est vraiment là pour aider, on appuie au maximum. Les ERS sont toujours bienveillants à ce niveau-là. On n'a aucune intention. Le but, c'est vraiment de créer un lien de confiance avec les assos, d'être des partenaires en fait avec eux, et on cherche pas du tout à faire un travail de flic, hein, parce que déjà, c'est pas pour ça pour laquelle on les a engagés et on m'a engagé. Vraiment, c'est les aider pour préparer au mieux leur soirée en toute sécurité, sans forcément les contraindre et leur donner l'impression qu'on est là pour les brider dans leur envie, quoi.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Maëlle, sur ce rapport?
Non, moi je suis d'accord. Enfin, justement, c'est ça, le rapport de confiance, il est super important, parce que nous, certains membres des étudiants relais santé sont aussi membres de bureau, donc on sait ce que c'est que d'organiser une soirée, on sait ce que ça représente en termes de sécurité, d'orga, et justement, le but de ces entretiens, c'est d'éviter tout problème et pas du tout de rapporter.
Voilà, donc buvez avec modération, buvez beaucoup d'eau, mangez et surtout bougez. Et voici une transition toute trouvée pour revenir sur notre sujet du jour. Et je crois qu'en tant que SSU, vous aviez envie de parler médecine sport et handisport.
Alors pour commencer, on a une offre de santé au niveau du sport. On a un médecin du sport au service de santé universitaire, le docteur Jean Doux, qui délivre des certificats de non-contre-indication au sport, à la pratique sportive. Alors ça peut être effectivement le genre de certificat qui est utile pour notamment pratiquer le sport avec le SUAPS, mais il y a également un suivi pour tout ce qui est médecine de haut niveau. avec la médecine du sport. Donc, si vous êtes un athlète, c'est toujours utile de passer effectivement par le SSU pour faire ces entretiens. Sachant que, un petit rappel, donc lorsqu'il y a un entretien pour un certificat médical, le certificat médical il est valable entre 1 et 3 ans, à peu près. Et dedans, on fait un check-up un peu complet avec auscultation, tension, ce genre de choses. Hein. Donc voilà, viennent ensuite les formations. Alors ça, les étudiants sont informés par mail. Il y a une formation spéciale gérée justement par le médecin pour tout ce qui est atelier préparation nutritionnelle pour les épreuves d'endurance. Avec également, donc, dedans, il y a nutrition, hydratation et enfin tout ce qui est compléments alimentaires. Ça dure une matinée de 3 heures à peu près. Et tout ça, c'est sur inscription. Alors, il y en a deux fois par an. Les prochaines, c'est le 11 mars et il y en a une autre en mai, mais la date n'est pas encore fixée. Pour s'inscrire, il suffit simplement d'envoyer un mail au SSU et puis voilà.
Il y a aussi une diététicienne qui est au SSU et donc elle a une permanence, enfin des consultations une fois par semaine. Donc, on peut aussi y aller. Et aussi, on fait des actions, donc, comme le midi handisport, qui aura lieu à la fac des Deux Lions donc, le 30 mars. Ça commence à 11h30 et ça finit à 14h. Et donc, ce sera dans le hall B si jamais le temps ne le permet pas, mais on va pouvoir faire. On va présenter trois types d'activités. Donc, il y a la CSI pétanque, donc c'est la pétanque pour les personnes en situation de malvoyante ou aveugle. Il y a le handi basket, donc c'est du basket en fauteuil roulant. Et la fléchette pendulaire, ça c'est pour des lourds handicaps, par exemple les paras ou tétraplégiques. Sinon il y a aussi, donc en commun avec le SWAPS, des ateliers détente à la BU. Et donc il y en a un demain.
Oui, il y en a un demain soir à partir de 19h jusqu'à 21h40, où il y aura Qigong et sophrologie. Et les ERS interviendront également demain soir, où ils présenteront notamment le livret de cuisine, parce que après tout, dans la détente, il y a aussi le fait de bien manger, hein. Détente et sport, toujours bien manger. Et ce livret de cuisine, c'est un livret qui avait été préparé par les ERS et le SSU il y a maintenant un peu plus d'un an. Et en gros, c'est une suite de recettes adaptées aux moyens à la fois financiers et technologiques des étudiants, c'est-à-dire ben, vous n'avez pas forcément tous plus qu'un micro-ondes et une plaque électrique. Du coup, c'est plein de recettes simples et pas très très chères à faire et qui permettent de varier et de manger un peu équilibré. Et pour pas très très cher, surtout.
Est-ce qu'on peut caresser l'espoir de voir un jour un de ces livrets à Radio Campus ?
Oh, ben, je peux essayer de vous en ramener à l'occasion.
Ah, fantastique, merci.
Donc voilà, et puis bah, je pense qu'on va peut-être laisser la main au SWAPS qui s'impatiente.
Bonjour le SWAPS.
Bonjour Radio Campus. peut-être que d'abord on peut se présenter aussi les uns les autres. Donc moi c'est Daphné Chardon, je suis donc étudiante, relais sport et doctorante à l'université de Tours. Et je suis accompagnée de deux Romains qui vont peut-être se présenter aussi l'un après l'autre.
Bah, du coup, moi c'est Yévu Romain, étudiant en relais sport également, en master à Tours.
Et enfin, Romain Villard, donc moi je suis chargé d'événementiel et de communication pour le SUAPS, donc le service universitaire des activités physiques et sportives. Donc voilà, je suis accompagné de deux des six étudiants en relais sport qui ont ce dispositif étudiant en relais sport qui a vu le jour cette année. Et avec l'objectif de promouvoir, de mieux fédérer les étudiantes et les étudiants au sein des composantes. Donc voilà, on a essayé de mettre dans chacune des composantes de l'université un ou une étudiante relais sport, de telle façon qu'il y ait un référent pour que voilà, toutes les questions à poser relatives au cours, au stage, à toute l'offre du SWAP, c'est bien, puisse être dans un premier temps faite par le contact avec ces étudiants relais sport.
Alors je me tourne vers nos deux étudiants relais sport, Daphné et Romain. Est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi vous avez eu envie d'être étudiant relais sport ? Peut-être que vous êtes déjà vous-même de grands sportifs.
Alors on est tous les deux pratiquants, c'est sûr, on a tous les deux des activités sportives à l'extérieur et surtout on est à l'université depuis plusieurs années maintenant. Romain qui est en master, moi en doctorat, donc on connaît aussi très très bien les activités qui sont proposées par le SUAPS. Je pense que c'était un petit peu ce qui était demandé aussi sur la fiche de poste. Tout à l'heure, vous parliez de comment devenir étudiant relais santé. Pour le sport, c'est un petit peu similaire. On a reçu des offres d'emploi via notre boîte mail. dans laquelle on nous demandait voilà, d'avoir quand même un minimum de connaissances du SUAPS, de ses activités, de, voilà, des, on va peut-être pas parler d'ambition, mais en tout cas des, voilà, des envies de fédérer du SUAPS. Et je pense que Romain et moi, on avait un profil qui correspondait plutôt pas mal à ce niveau-là.
Bah ouais, c'est bien résumé. Je rajouterais peut-être aussi le fait d'être sur un pôle de l'université, notamment on est sur le même Hauteneur, ou peut-être vouloir faire avancer un petit peu tout ce qui est activité sportive et surtout promotion du sport, qui est peut-être un peu, on va dire, en retrait par rapport à d'autres pôles de l'université qui ont des associations sportives bien organisées comparées à la nôtre. Donc déjà nous, parce qu'on aime le sport et qu'on voulait faire la promotion aussi, de réussir à inciter un bon nombre d'étudiants à nous rejoindre dans les pratiques sportives et de faire découvrir peut-être un peu plus ce qui se faisait à l'université.
Voilà, donc ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous avez repéré qu'il y a des disparités en fait au sein des différents pôles de l'université de Tours, parce que c'est une des spécificités de cette université, c'est qu'elle est quand même éclatée aux quatre coins de la ville. Et alors pourquoi est-ce qu'au Tanner on fait moins de sport qu'à Grammont par exemple?
Ben déjà, je sais pas, première indice ou indication, c'est peut-être la distance. Tout simplement, je pense que ça doit être c'est l'un des pôles de l'université qui est le plus éloigné de Grandmont. Il y a quand même une majorité des activités sportives qui sont déroulées. Après, comme je disais précédemment, au niveau des associations sportives, il y a pas eu ou des associations tout court, il y a pas eu une grande organisation pour l'instant autour du sport, et c'est ce qu'on espère aussi avec le dispositif des ER Sports, c'est juste qu'il y a une dynamique qui se lance et que par la suite finalement il y ait moins de disparités, que ce soit équivalent à d'autres pôles de l'université.
J'ajouterais par rapport à ce que dit Romain que on avait effectivement noté une disparité des pratiques et de fréquentation concernant certains projets, un certain type d'offres, notamment dans ce qui touche l'événementiel et plus particulièrement le challenge étudiant sportif sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et donc c'est notamment par rapport à ces événements et à ce challenge que les étudiants au Relais Sport, notamment donc au Tanner avec Daphné et Romain, et puis également au De Lyon avec Simon, où il y a eu un besoin de fédérer pour créer des équipes, pour parler des événements qui se font et réussir du coup à avoir plus de fréquentation. Ça se retrouve moins sur les cours que l'on dispense chaque semaine avec le SUAPS, où là le pourcentage est peut-être légèrement inférieur à celui qu'on retrouve en termes de fréquentation sur Grandmont, mais l'écart est beaucoup moins élevé, en tout cas sur la pratique régulière.
Alors une doctorante et un étudiant en master, est-ce à dire que vous trouvez quand même du temps pour être étudiant relais sport et faire du sport, ou est-ce qu'au contraire, prendre le temps de faire ces choses-là, ça vous en fait gagner par ailleurs?
Alors, je ne sais pas si ça fait vraiment gagner du temps, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait, c'est un mode de vie aussi. Donc c'est vrai qu'on est là aujourd'hui pour parler sport et santé. Et le sport, moi, ça a toujours fait partie de manière personnelle de mon emploi du temps. J'ai toujours réussi à gérer sans être non plus sportif de haut niveau. Donc c'est vrai que c'est une organisation qui est encore différente quand on est sportif de haut niveau, avec des aménagements d'ailleurs qui sont prévus pour. Pour ce qui est du temps passé en tant que R-Sport, le fait d'être 6... Je pense qu'on arrive à pas mal se libérer de temps les uns les autres. En fait, on a à la fois une mission de communication sur les pôles dans lesquels on travaille. C'est tout simplement une permanence par semaine. Donc une fois, une journée dans la semaine, c'est pas non plus en termes de temps, c'est pas ce qu'il y a de plus chronophage. Et ensuite, on est là pour des aides ponctuelles sur des événements le soir. Donc c'est vrai qu'en termes d'organisation, c'est quand même... assez facile, je dirais, de s'adapter. Je ne sais pas si Romain veut rajouter quelque chose à ce sujet.
Après, c'est surtout au final les événements où on se retrouve en tant que Air Sport. Pour ma part, je sais que c'est des événements où j'aurais été en tant que simple étudiant. Donc, est-ce que en différence de temps, finalement, ça change pas forcément par rapport à mon ancien emploi du temps avant d'être Air Sport. Puis, je pense que c'est du temps vraiment. Je veux pas dire qu'on compte pas, mais ça nous tient tellement à cœur qu'on aime, en fait, on prend le plaisir à prendre ce temps, donc c'est pas trop un problème. Puis même en participation sport en plus, donc le fait d'amener les étudiants à participer, parfois même de participer avec eux, c'est beaucoup de plaisir, donc ça va.
Une question bête, ça veut dire quoi, SUAPS ?
Alors, le SUAPS, c'est le service universitaire des activités physiques et sportives. Voilà. Dans le titre, ne sont pas incluses les activités d'expression artistique, mais elles sont bien présentes au sein de ce que l'on propose, et on retrouve également des activités de bien-être. Voilà, donc pour faire une offre complète, on a cette volonté de développer vraiment des secteurs d'activités larges, diverses, et on essaye de proposer une offre pléthorique de telle façon que eh bien, les étudiants et les étudiantes puissent s'y retrouver et avoir quelque chose qui leur correspond.
Alors, ça existe depuis combien de temps, en fait, le SUAPS ? Est-ce qu'on en trouve un dans toutes les universités de France ? Est-ce que c'est une obligation d'en avoir un ?
Alors, on retrouve un SUAPS, ou après, ça peut être une appellation un petit peu différente en fonction des universités, mais on retrouve effectivement un SUAPS dans chacune des universités. Un point important quand même à avoir en tête, le SUAPS, donc c'est un service commun de l'université, il se différencie d'une composante d'études que dans le sport on appelle STAPS. Donc en fait, sur l'université de Tours, nous n'avons pas de STAPS, donc nous n'avons pas d'étudiants qui font leurs études entièrement dans le domaine du sport et qui obtiennent un diplôme, une licence, un master, un doctorat autour d'une pratique plutôt d'études sportives sur Tours. Tout ça dans la région, c'est sur Orléans, ou sinon après il y en a sur Poitiers. Mais nous, Université de Tours, nous ne développons que des activités dans le cadre du SUAPS, et donc voilà, on l'abordera tout à l'heure, mais les étudiants peuvent pour certains prétendre avoir une valorisation dans leur cursus universitaire, mais ça reste qu'une valorisation grâce à une pratique sportive. Voilà. Ce n'est pas un cursus d'études complet.
Alors, vous disiez aussi qu'il y avait des oubliés dans l'appellation SUAPS, c'est les activités, vous disiez, artistiques, je suppose que c'est la danse peut-être.
Voilà, notamment, effectivement, on a même, par exemple, nous proposons du théâtre d'improvisation, donc ça fait partie des activités d'expression qui sont assez riches, en tout cas, moi j'en suis convaincu. Sur notre offre de cours, mais pas que, on a également des événements, notamment un spectacle de danse plurielle qui regroupe les différentes pratiques dansées avec les étudiants qui ont pu travailler tout au long du semestre et qui viennent se représenter sur scène. Voilà, donc c'est pour vraiment corroborer le fait que dans SUAPS, on inclut vraiment la dimension artistique et les activités d'expression.
Voilà, ça peut sembler curieux tout de même que la danse ne soit pas considérée comme un sport, parce que pourtant ça...
Ça l'est en fait, c'est juste dans l'appellation. J'irais même un petit peu plus loin en termes de communication. Aujourd'hui, on parle d'Université de Tours sport. Et donc sport, ça parle à tout le monde. Mais ça n'englobe pas tout. Et effectivement, c'est l'accroche qui, lorsque l'on creuse un petit peu, eh bien, permet de s'apercevoir que l'offre dépasse le titre qui a permis de communiquer, quoi.
Alors, puisqu'on parle d'offre pléthorique, est-ce que vous voudriez nous donner un aperçu de tout ce qu'on peut faire au SUAPS ?
Alors oui, justement, donc déjà, il faut quand même savoir que le SUAPS, justement, comme disait Romain, c'est pas uniquement des cours dispensés à la fac, il y a plein d'autres choses dont on pourra parler après, mais c'est vrai que l'offre est quand même très très large, donc ça va vraiment au-delà du sport collectif, hein, je sais pas, parmi les sports co, qu'on peut tous avoir en tête, le foot, le hand, le volley. On a aussi des activités aquatiques, qui sont peut-être un petit peu moins connues, donc il y a certes la natation, mais on propose aussi des cours de plongée, par exemple. On a des activités du corps de manière assez générale, donc musculation, pardon, fitness, remise en forme, les sports collectifs dont je vous parlais, bien sûr, qui fonctionnent d'ailleurs très très bien, des sports de combat, des sports de raquettes, l'athlétisme, Et ensuite, on a des activités physiques de pleine nature. Alors parfois aussi, c'est sous forme de stage à l'extérieur. On reviendra sûrement là-dessus aussi. Mais donc du canyoning, de la spéléo. Et puis, des activités diverses comme le golf, l'escalade, la pétanque, des cours d'escrime aussi. Et puis, donc, comme le disait Romain, ça englobe bien sûr les activités d'expression. Donc on a énormément de danses hein, différentes qui sont proposées, la danse tahitienne. Il doit y avoir des danses de salon aussi, il y a vraiment, hop, je l'ai sous les yeux, la danse indienne, danse orientale, danse tahitienne, hip-hop et j'en passe parce qu'on n'aurait pas le temps de faire vraiment toute la liste, mais en danse il y a vraiment une offre qui est intéressante. Et puis tout ce qui est pratique de bien-être, donc yoga, sophrologie, qui se transforme aussi, on en reparlera, en stage ou en soirée événement comme en parlait tout à l'heure nos deux intervenants du service de santé. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de toutes les activités qui sont proposées et qui sont encadrées parfois par des professeurs du SUAPS, parfois par des intervenants extérieurs. Je ne sais pas, peut-être que Romain, tu peux donner plus d'infos à ce sujet, mais c'est ce qui permet d'avoir une offre si large aussi.
Effectivement, les cours que l'on propose, même les stages, les événements, sont encadrés par des professionnels. Et donc, on a des enseignants titulaires, donc, dont l'emploi du temps est exclusivement dédié à la mise en place de cours, de stages pour l'université. Et ensuite, on fait appel à des vacataires, donc des intervenants qui vont venir, par exemple, pour 2 heures chaque semaine pour proposer un cours de telle ou telle activité. Et donc, voilà, on a une batterie de vacataires assez importante qui permet justement d'avoir une diversité d'activités que peut-être certains enseignants titulaires n'ont pas le temps et parfois peut-être aussi pas encore les compétences puisqu'ils se forment régulièrement pour proposer de nouvelles activités et nouvelles choses chaque année. Voilà, pour vraiment avoir une offre diverse, on fait appel à ces vacataires.
Voilà, donc si jamais les dégoûtés du sport scolaire, lycéens et collèges nous entendent, voilà, on voit qu'en fait, il y a un tel éventail de pratiques qu'ils peuvent sûrement trouver quelque chose qui leur convient.
Non seulement quelque chose qui leur convient, et j'insiste aussi sur le fait que c'est vraiment du tout niveau, c'est-à-dire que la pratique peut vraiment se faire de manière libre et en découverte. Ça a été mon cas pour plusieurs sports quand je suis arrivée à l'université, où voilà, j'ai pu profiter de cette large offre pour toucher à des sports auxquels j'aurais jamais eu l'occasion de toucher. Le golf, qui peut paraître peut-être un petit peu exclusivement réservé peut-être à une certaine élite, ou en tout cas, voilà, ça permet peut-être de briser aussi certains stéréotypes sur la pratique de certains sports. L'aviron, voilà, que j'ai pu essayer par exemple aussi, qui change des traditionnels volley, foot, basket, dont je pouvais parler, et qui permettent non seulement de s'ouvrir et de découvrir de nouvelles activités, mais aussi tout simplement de se mélanger avec d'autres étudiants, de ne pas rester uniquement entre lettres et langues quand on est en lettres et langues, entre médecine quand on est en médecine, mais de connaître tout simplement d'autres étudiants, d'ouvrir un petit peu le champ des possibles en termes de connaissances, qui est toujours sympathique aussi.
Et puis, je pense par exemple, je ne sais pas si vous en proposez, la pétanque, je ne sais pas si ça existe.
Oui, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, mais qui est une nouveauté cette année, si je ne dis pas de bêtises.
Voilà, parce que après, je ne sais pas si les étudiants internationaux se saisissent aussi de cette offre, parce que je pense à un sport comme la pétanque, si je le cite, c'est à dessein, parce qu'il y a des pays où c'est un sport qui est pratiqué, peut-être plus qu'en France, par des gens plus jeunes. Donc je ne sais pas si là aussi vous pouvez voir ça en fait en termes de personnes qui s'inscrivent, de se dire tel sport ça intéresse peut-être plus des étudiants internationaux que des étudiants français.
Alors, nous, sur déjà le type de pratique, ils peuvent s'inscrire soit sur des cours, soit sur des événements. Après, toutes les activités ne sont pas proposées dans ces deux offres-là. Et On propose bien évidemment en fait l'intégralité de notre offre à tous les étudiants, internationaux ou non. Par contre, on ne fait pas forcément de statistiques sur le pourcentage d'étudiants.
La France n'aime pas ce genre de statistiques.
C'est qu'en fait, on ne prend pas le temps de la faire, étant donné que nous, l'objectif, je dirais, c'est de proposer déjà une offre qui soit très diversifiée et quantitative. Et de réajuster en fonction du taux de remplissage dans les cours. Donc en fait, enfin dans les cours ou même dans les offres de manière générale. Donc ce qui nous importe, c'est que ça fonctionne. Peu importe le public qui s'y déplace, ce que l'on veut, c'est réussir à fédérer des étudiantes et des étudiants pour que nos offres soient fréquentées, quoi.
Qu'est-ce qui marche le mieux, à votre avis ?
Alors, je dirais que en termes d'activité, ça fluctue, il y a des tendances. On a eu des pratiques fitness qui ont bien marché il y a, je dirais, 5 ans. Elles fonctionnent toujours aujourd'hui, mais peut-être à un rythme un petit peu moins important que ça ne l'a été. Et puis, on a en fait des activités assez tendance entre guillemets. Je pense notamment à l'escalade qui, dans un cadre privé, fait un grand boom avec, je pense notamment à pas mal de salles de blocs, de salles privées du coup qui s'installent dans les villes et sur lesquelles on voit qu'il y a de la demande, il y a la population qui fréquente de plus en plus ce type de structure, et nous on se rend compte que dans les pratiques d'escalade que l'on propose, on a quand même une bonne fréquentation. Après, la fréquentation dans nos différentes offres dépend aussi du lieu, donc ça on l'a évoqué, mais du créneau horaire et du jour dans la semaine sur lequel on le propose, quoi. Et on peut avoir certaines activités qui fonctionnent très bien à un créneau horaire, je dirais en soirée, un jour en semaine. Et puis, si on le propose en fin de matinée ou alors milieu d'après-midi, un mardi, là, on va avoir beaucoup moins de fréquentation parce que y a un emploi du temps étudiant qui n'est pas forcément adapté à une grosse fréquentation sur ces créneaux-là, quoi.
Alors, je vois que vous êtes muni de petits carnets rouges. Voilà, ça s'appelle le Pack Sport, je crois. Est-ce que vous voulez nous dire de quoi il retourne ?
En fait, nos jolis petits livrets que tout le monde peut retrouver dans son université parlent des différentes offres qu'on a en fait au niveau du SUAP sur le sport. Notamment, il y a trois types. Pour participer au sport à l'université, on peut le faire de trois manières différentes, si je peux dire ça comme ça. Il y a le sport évalué, qui en fait revient à prendre dans le cadre de ses études, à partir de la deuxième année de licence, le sport en tant qu'enseignement d'ouverture. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans une filière psychologie, mais que vous voulez faire des cours autres, vous avez un cours obligatoire qui sort de votre cadre, donc vous pouvez prendre un cours d'histoire, un cours de géographie, mais aussi un sport. Donc il y a plusieurs sports qui proposent donc d'être évalués à ce niveau. On a l'offre Cevec Sport qui en fait est l'offre de sport qui est incluse dès que vous êtes inscrit à l'université, qui vous propose donc de participer aux grands événements qu'on organise avec le SUAPS, de participer également au challenge étudiant sportif dont on va parler par la suite, et également à certains stages que l'on propose, que sont des stages de danse ou des stages de bien-être. Et la plupart se font par inscription directement par l'ENT. Et enfin, la dernière offre, c'est le Pack Sport qui vous permet d'être inscrit sur plusieurs sports à l'université, jusqu'à 3 par semaine. Et là, on retrouve tous les sports dont on a parlé tout à l'heure, les différentes pratiques. Et donc, il y a environ, on va pas tous les citer, donc vu qu'il y a plus de 200 cours. Mais c'est l'inscription à ces cours. Vous pouvez également retrouver la possibilité de s'inscrire à des stages nature ou encore des formations diplômantes dont on va parler par la suite, et différents avantages avec des partenaires du Pack Sport. Donc ça peut être des clubs sportifs de la ville de Tours, on peut avoir des réductions ou autre, ce type de choses.
Eh bien, avant de parler du challenge sport, des formations diplômantes et peut-être même des sportifs de haut niveau, je vous propose, chers invités et chers auditeurs, de faire une pause musicale pour reprendre notre souffle. Et nous allons écouter un peu de jazz, nous allons écouter Patricia Barber, Mythologie. On se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tours.
These days, I have become a collector, tender of the flimsy, yellow and still, putting one foot in front of the other. Take the formless to heart, and I fill pots with dirt, and myself with cold white wine, utterly beside the point in straw hat, and fussing with flowers. I am consigned neither to here nor there, to this and that. Long since the Furies cried, I've been alone. For gods don't rejoice in the death of two. Like Sisyphus and his stone, I push. The second chances are so few.
Patricia Barber sur Radio Campus Tours. Vous écoutez toujours La Méridienne avec moi en studio, deux représentants du SSU, Tony et Maël, et trois représentants du SUAPS, Daphné, Romain et Romain. Alors, il me semble que le SUAPS souhaitait préciser quelque chose.
Alors effectivement, par rapport à cette offre contenue dans le pack sport, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, nous souhaitions bien repréciser, décomposer les quatre offres qui composent ce pack sport avec les cours qui sont sur des pratiques hebdomadaires avec une inscription semestrielle. Et dans ces cours, on peut y trouver, selon les différentes disciplines et les différentes propositions que les enseignants ont faites, eh bien, soit quelque chose avec un contenu pédagogique, ou alors quelque chose qui ressemblerait à de l'animation avec plus de pratiques libres et pas d'exercices. Voilà, c'était donc cette précision sur les cours, bien séparés des formations diplômantes, bien séparés également des partenaires que l'on peut avoir avec différentes structures sportive et séparer également des stages nature que l'on évoquera par la suite. Voilà. Au niveau après de l'offre que l'on propose au SUAPS, nous avons donc ce pack sport avec les offres que nous venons de décrire. Et nous avons aussi dans la CEVEX Sport eh bien des stages, des événements dont Daphné va pouvoir nous parler.
Ouais, alors justement, on parlait pas mal d'événements tout à l'heure. Il faut savoir que ponctuellement, tout au cours de l'année universitaire, et ce, sans avoir besoin d'adhérer au pack sport ou de rajouter quoi que ce soit, en étant tout simplement étudiant à l'université de Tours, on peut participer à ces événements qui sont des soirées ponctuelles. Tout d'abord, c'est les premiers dont je voulais parler, où on a par exemple la nuit de la patinoire, qui a été une vraie réussite cette année. On a même été assez surpris du nombre d'inscrits. Il a fallu après s'organiser sur place parce qu'il n'y avait pas de nombre limite d'inscrits. Il y avait beaucoup plus d'étudiants que de patins à louer. Donc il a fallu s'organiser un petit peu, mais c'est toujours plaisant. Donc la nuit de la patinoire qui en plus a un caractère un petit peu exceptionnel, c'est vrai qu'on ne propose pas du tout de cours hein, au SUAPS de patins, donc forcément peut-être que ça a attiré pas mal les étudiants. On a ensuite la nuit du fitness, donc on a deux événements autour de la fitness au SUAPS dans l'année. Des soirées danse plurielle dont on a parlé, c'est des spectacles qui sont préparés par les étudiants en cours de danse. La nuit du badminton, celle du volley qui est sous forme de tournoi finalement. La nuit du golf, qui fonctionne plutôt pas mal aussi. Et puis la quête du temps, qui est en fait un jeu de piste, une espèce de petite course d'orientation dans les rues de Tours, donc, qui est plutôt sympa, qui fonctionne aussi pas trop mal, mais qui fonctionne pour l'avoir vécu très bien au niveau des étudiants étrangers, justement les Erasmus, on en parlait tout à l'heure, et j'ai pu les accompagner certaines années. C'est vrai que le fait de découvrir un peu la ville de Tours sous cette forme-là, sportive et ludique, ça leur avait bien plu, ça les a bien marqués. Ensuite, ça fait plusieurs fois qu'on vous parle du challenge étudiant sportif. Et c'est une des grosses missions pour Romain et moi au Tanner. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est vrai que la pratique du sport sur le pôle des Tanner, c'est pas forcément là où elle est la plus revendiquée, la plus pratiquée. Donc en fait, le principe du challenge étudiant sportif, pour le dire tout simplement, c'est un tournoi interfac, intercomposante, sur 11 épreuves sportives. Et l'idée, c'est de constituer des équipes d'étudiants qui appartiennent tous à la même composante. Donc, les étudiants de pharmacie, les étudiants de médecine, de lettres et langues, qu'on appelle s'ils nous écoutent, ainsi que ceux d'art et sciences humaines qui peuvent venir toujours. Et donc, l'idée, c'est de les faire s'affronter sur ces 11 épreuves. Absolument pas obligatoire de s'inscrire sur les 11 épreuves. Hein. Si un étudiant qui est fan de foot, il peut s'inscrire uniquement sur le foot, et puis on trouvera d'autres étudiants pour le ping-pong, pour le basket, et j'en passe. Et donc, au fur et à mesure de ces soirées tournois, un classement est établi et un trophée est remis à la structure gagnante, tout simplement. Donc, pour participer à ce challenge, Ça fait partie de ce qu'on appelle l'offre CEVEC. Donc, c'est ce que je disais, il suffit uniquement d'être étudiant à l'université de Tours. Et ça ne demande vraiment pas d'implication supplémentaire. Il n'y a pas besoin de participer, d'être inscrit sur tel ou tel cours pour pouvoir participer à l'épreuve en question. Il suffit juste d'en avoir envie. Ce n'est pas très compliqué. Le challenge a été ouvert aussi cette année à un tableau féminin uniquement. Donc, on essaye aussi de promouvoir un peu la pratique de sport féminin. Donc on a ouvert un tableau féminin uniquement, ou alors un tableau mixte, si jamais il n'y avait pas assez de sportives qui souhaiteraient constituer des équipes. Elles peuvent évidemment intégrer une équipe mixte et donc se rattacher au tableau classique, on va dire. Et puis juste un petit point peut-être administratif très rapide, il faut savoir qu'il n'y a besoin ni de certificat médical, ni d'être inscrit ni d'avoir de licence sportive dans tel ou tel sport pour pouvoir y participer. Le fait d'être étudiant à Tours suffit. Et donc ça c'est le petit point sur le challenge étudiant. Et on a parlé aussi des stages. Tout à l'heure je vous en parlais avec la Spéléo par exemple. Donc ça fait aussi partie de l'offre CEVEC. Donc là, selon les stages, parfois il faut payer des suppléments forcément, puisque on propose par exemple un stage de ski alpin. Vous vous doutez bien que c'est pas sur Tours que ça se passera. Donc parfois, voilà, il faut payer un supplément pour l'hébergement, la location des skis, le trajet. Donc sur les stages pleine nature, on va voir canyoning, escalade, ski de fond, ski alpin, spéléo, rando, trail. Et qui peuvent être sur le week-end ou parfois sur la semaine. Le ski alpin, c'est sur la semaine, par exemple. Et parfois, en semaine ou les week-ends, on propose d'autres stages, des stages bien-être, dont on a déjà parlé, et danse. Et puis, pour les nouveautés cette année, on a beach volley et paddle tennis. Voilà pour ce qui est de l'offre CEVEC.
Alors, juste peut-être préciser quand même pour nos éditeurs qui seraient intéressés par tous ces stages, séjours et autres, c'est que ça reste à des prix très abordables.
Alors, oui, évidemment. Peut-être que Romain peut donner des informations supplémentaires à ce niveau-là, il sera peut-être plus apte.
Donc effectivement, oui, sur les stages, on propose des tarifs très abordables. Donc en ce qui concerne les stages nature, donc déjà il faut être titulaire du pack sport et pour pouvoir s'inscrire dans ces différents stages nature, et ensuite effectivement les frais d'inscription qui sont demandés dans chacun de ces stages sont vraiment très réduits. On essaye de prendre en charge certaines parties pour faire diminuer le coût que ça aura auprès de l'étudiant, et il y a aussi des tarifs négociés pour du matériel, voire même des fois des choses qui sont achetées par le SUAPS et dont on prête aux étudiants. Du coup, le transport, il se fait avec très souvent les véhicules du SUAPS. Donc c'est pareil, on a des coûts de location qui sont enlevés, qui permettent d'avoir vraiment des tarifs très très préférentiels par rapport à ce que l'on pourrait trouver dans une activité identique, mais faite dans le cadre privé.
Est-ce qu'on peut avoir quelques tarifs à titre d'exemple pour les étudiants fauchés qui nous écoutent?
Je m'avance vraiment sur des estimations plutôt que des tarifs précis, puisque je ne les connais pas tous et ils sont revus sur chaque stage et chaque année. Mais sur une randonnée autour du Mont-Saint-Michel, je crois qu'on est entre 80 et 100 euros, avec du coup de la randonnée sur deux jours, transport, hébergement, restauration, prise en charge. Donc voilà, on a quelque chose de vraiment, et puis un guide pour faire la présentation de tout ce que l'on rencontre sur cette randonnée-là. Sur du canyoning, je crois qu'on est pareil, toujours dans cet ordre-là, autour d'une petite centaine d'euros. Après, ça dépend vraiment des activités, mais on essaye de réduire les coûts au maximum, voire d'homogénéiser un petit peu entre les stages pour que les stages qui coûtent cher, eh bien, soient pas si chers que ça pour l'étudiant, alors que voilà, les autres qui sont peut-être un tout petit peu moins onéreux, et eh bien voilà, permettre de proposer une offre qui soit cohérente de manière globale, quoi.
Alors, juste par curiosité, est-ce que ces séjours, je pense au ski ou quelque chose comme ça, sont éligibles à une forme d'aide quelconque ?
Alors, non, nous finançons cela avec, du coup, les recettes dont nous pouvons bénéficier au niveau du SUAPS, qui se font sur le pack sport et qui voilà, se font avec aussi la contribution CEVEC, dont le SUAPS en récupère une partie par étudiant.
Ouais, donc je pensais par exemple au chèque vacances ou des choses comme
non,
ça.
Non, on est vraiment sur des coûts minimisés au maximum, mais ensuite c'est du paiement tout à fait standard, sans avantage possible pour les étudiants.
Donc voilà pour toute votre offre, et il me semble peut-être un mot sur les sportifs de haut niveau.
Alors, peut-être avant juste de passer sur les sportifs de haut niveau, je tiens à préciser que les stages, le volet nature est effectivement soumis à des compléments de frais d'inscription. En revanche, tout ce qui est stage bien-être, stage de danse et les stages d'hiver dont a parlé Daphné à l'instant, eh bien, tout cela sont gratuits. Voilà. Donc, effectivement, sur le dispositif de statut de sportif de bon ou de haut niveau, nous proposons un dispositif qui permet à l'étudiant qui a été retenu par la commission qui a lieu en début d'année, eh bien, de bénéficier de certains droits et avec des devoirs également à respecter. Donc, il y a un dossier au préalable que l'étudiant doit déposer tout début septembre. Ce dossier, donc, il est évalué et il est passé en commission. Et dans le cas où le statut est attribué à l'étudiant, eh bien, voilà les droits auxquels il peut prétendre, c'est l'accès au régime spécial d'études, donc RSE, avec une possibilité d'allongement du cursus d'études, donc par exemple faire un cursus en 4 ans au lieu de 3, pour qu'on puisse justement y caser eh bien les différentes échéances que l'étudiant a entre ses entraînements, ses compétitions dans son sport. Donc voilà, organiser son emploi du temps et autoriser des absences pour des stages et des compétitions, y compris ce qui se fait au niveau de la Fédération française du sport universitaire, donc les compétitions universitaires. Un hébergement possible en résidence universitaire, un suivi médical et une valorisation dans l'UECRCIB dont on a brièvement parlé tout à l'heure. Voilà, en ce qui concerne les devoirs, un étudiant donc qui a ce statut de sportif de bon ou de haut niveau doit participer aux compétitions universitaires, doit également accepter d'être en représentation lorsque l'université en a besoin. Donc ça peut arriver peut-être 2 à 3 fois dans l'année où il y a une mise en avant des sportifs de haut niveau dans tel ou tel contexte, dans tel ou tel événement. Et puis également accepter les entretiens de suivi pour que il y ait un vrai lien qui se crée entre l'étudiant qui a ce statut et le SUAPS.
Ça veut dire que les étudiants dans ce cas peuvent être des outils de communication, disons, pour l'université ?
Alors, disons que c'est une vitrine. On sait qu'un étudiant qui brille dans une activité, on aime à ce que ce soit mis en valeur. C'est également le cas pour les résultats sportifs qui peuvent être faits par des étudiants et des étudiantes qui ne sont pas titulaires de ce statut de sportif de bon ou de haut niveau et pourtant qui brillent notamment en compétition universitaire et qu'on n'hésite pas à mettre en avant sur notre communication SUAPS, notamment par notre page institutionnelle Facebook ou alors sur notre site web avec une actualité qui pourra mettre en valeur tel ou tel résultat.
Alors pour ce qui est d'un mot peut-être aussi sur les compétitions nationales de sport universitaire, je ne crois pas qu'il y en ait cette année à Tours, à Orléans peut-être, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose à Tours.
Alors effectivement, il y a une fédération française du sport universitaire, donc association loi 1901, qui a des instances décentralisées. Donc au niveau de la région, il y a une ligue qui se trouve sur Orléans et qui organise des compétitions de différents niveaux. Ça peut être régional, interrégional, championnat de France. Dans toute la région et en fonction des appétences, je dirais, des universités et notamment des SUAPS, eh bien, il peut y avoir des volontés d'organiser ou non des compétitions universitaires dans l'enceinte de l'université. Et donc, il est arrivé à plusieurs reprises, hein, d'avoir des championnats de France universitaires d'organiser sur Tours, qui étaient chapeautés en partie par le SUAPS, et du coup avec l'aide indispensable, bien évidemment, du sport universitaire et donc de la Ligue. Cette année, il est vrai qu'il n'y a pas eu de candidature de fait, et donc il n'y aura pas de championnat de France universitaire me semble-t-il, pour cette année. Ça peut être aussi directement à l'initiative de la Ligue, mais je crois que pour cette année, au niveau championnat de France, il n'y a pas eu de dépôt de candidature sur Tours.
Bon, alors on peut caresser l'espoir que ça revienne les années prochaines. Et alors, j'en profite pour dire que nous sommes assez pauvres à Radio Campus Tours en contenu sur le sport universitaire. Donc, à bons entendeurs, si jamais ici ou ailleurs, des gens ont envie de faire des chroniques ou des contenus sur le sport universitaire, pour le moment, nous n'en avons pas. Donc, n'hésitez pas. Voilà, cette émission, malheureusement, touche déjà à sa fin. Alors, je me tourne vers le SSU et le SUAPS. Est-ce que vous avez vraiment quelque chose d'indispensable à ajouter ?
Bah, nous, on peut faire un petit point rapide parce que là, on a parlé des sportifs de certains niveaux, d'un niveau intermédiaire jusqu'à un haut niveau. Et nous, on va parler des petits sportifs, des gens qui font peu ou pas de sport, comme majorité des gens finalement. C'est juste pour rappeler en fait qu'il y a plein de façons hein, de faire du sport sans s'épuiser, sans avoir l'image un peu de sport où on suinte et on souffre et tout ça. Non, c'est simplement simplement l'idée de, par exemple, de changer quelques petites habitudes, de favoriser la marche à pied, de prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. Je sais pas, vous avez fait un excès de nourriture, vous avez mangé trop de sushis, trop de burgers, au lieu de passer par l'ascenseur, prenez un peu plus d'escalier et ça marche plutôt bien. C'est des petites choses comme ça. L'idée, c'est juste de respecter au moins les 30 minutes d'activité sportive, donc de marche par exemple, par jour. Déjà avec ça, ce sera déjà un bon début.
Et plus de pistes cyclables, ça peut aussi encourager les bonnes volontés, n'est-ce pas ?
Aussi, le vélo c'est très très bien, et pour la petite histoire, pour les gens qui souhaiteraient faire du vélo mais qui n'ont pas les moyens de faire du vélo, sachez que par exemple Fil Bleu propose des abonnements qui sont de 5€ si vous n'êtes pas abonné chez eux et de 3€ si vous êtes abonné chez eux pour avoir un vélo, donc c'est plutôt une bonne occasion et c'est des vélos de plutôt bonne qualité dans l'ensemble.
Nous, ce qu'on voudrait ajouter aussi, peut-être par rapport au sport universitaire, à l'université, c'est aussi l'ouverture en termes d'intégration sociale. On parlait par exemple tout à l'heure des étudiants étrangers, et le fait de participer au sport à l'université permet aussi de briser un petit peu les barrières qu'il y a d'intégration dans arriver dans un nouveau pays ou autre, parce que finalement le sport devient plus ou moins une langue universelle, dans le sens où on peut tous faire du basket même en parlant 5 langues différentes sur le terrain, c'est pas forcément un souci. Et nous on le voit notamment dans les challenges étudiants sportifs ou dans les cours où on va chercher les étudiants, ça permet aussi de les intégrer dans les événements dont on a parlé, ou notamment la fac à vélo qui permet de découvrir la fac en traversant les différents pôles de l'université de Tours à vélo, où moi j'étais notamment sur au Tanner, et il y avait beaucoup d'étudiants étrangers qui avaient en profité pour venir découvrir l'université et se mettre en fait c'était en équipe, donc ça a permis aussi de créer déjà des groupes, et ce qui est bien quand on arrive forcément dans un lieu qu'on connaît pas forcément. Tout ce qui est aussi développement personnel, parce que certains des professeurs dans les cours de l'université essayent beaucoup une approche par compétences et de montrer à quel point ça pourrait être retranscrit dans la vie de tous les jours. Tout ce qui est par exemple capacité à travailler en équipe, cette capacité à faire du sport en équipe, de le retranscrire pour le travail, cette capacité de suivre une rigueur, par exemple, si je prends les cours de musculation, d'être capable de suivre un programme et finalement d'apprendre une certaine autonomie, une certaine rigueur, de le retranscrire à sa vie personnelle. C'est beaucoup de choses, en fait, finalement, qui passent par le sport, mais qui sortent du cadre juste du sport à l'université, qui rentrent dans le développement personnel et de la personne en tant que telle, et pas juste du sportif.
Voilà, et bien, il me reste à remercier mes 5 invités pour cette émission qui touche déjà à sa fin. Merci Tony et Maël du SSU, merci Romain et Daphné du SUAPS. On vous retrouve, bien sûr, sur les internets et en podcast sur notre site www.radiocampustour.com. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée à l'écoute de nos délicieux programmes.